IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci pour votre fidélité à notre média et nos émissions et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie en direct, l'émission qui décrypte les enjeux économiques à travers le prisme de ceux qui les vivent et les transforment. Et si innover, c'était aussi repenser nos déplacements et nos routines pour allier performance, bien-être et durabilité. Aujourd'hui, mardi 28 octobre, nous explorons deux univers qui transforment le quotidien, celui du vélo, solution clé pour une mobilité responsable en entreprise, et celui des cosmétiques nomades qui réinventent le soin de soi partout et pour tous. Deux approches locales, humaines et engagées pour un avenir plus léger et plus joli. Pour découvrir ces deux univers, j'ai le plaisir d'accueillir Oscar Wettling et Pierre Ginoux, cofondateurs de la filiale mobilité Minib Cycle, experts en mobilité douce et vélo en entreprise. Bonjour Oscar, bonjour Pierre.
Bonjour Jacqueline. Bonjour.
Merci d'être dans nos studios ce matin. Et à vos côtés, Cécile Collat et Hugo Collat, cofondateurs et gérants de la société Jolie Derme, des cosmétiques réfléchis et conçus pour le voyage. Bonjour Cécile et bonjour Hugo.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, deux binômes ce matin. Bienvenue à tous les quatre et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct.
Merci à vous.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Avant de vous donner la parole, nous allons commencer l'émission en portant notre regard sur le monde, tout en restant dans notre département, grâce à notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, et sa rubrique « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, à vos invités et à tous nos auditeurs.
Et auditrices, Gérard.
Oui, au
ne les oubliez
large,
pas.
Large. Comme Gérard, l'audience, aussi
oui,
large que l'audience.
C'est ça. Gérard, aujourd'hui, vous avez intitulé votre rubrique « Trump-Poutine, de l'Alaska à la Hongrie ». Nous allons donc échanger, je suppose, sur la situation en Ukraine et ses perspectives. Et la question qui se pose, pourquoi, deux mois après leur première entrevue en Alaska, les présidents américains et russes vont-ils essayer de se retrouver ?
À cette question, il y a beaucoup d'éléments de réponse. Tout d'abord, la position du président américain qui s'était fait fort d'obtenir un cessez-le-feu en 24 heures grâce à sa relation avec Vladimir Poutine. Il veut obtenir l'arrêt des combats. Or, la première entrevue en Alaska n'a apparemment pas apporté les progrès escomptés. Depuis le 15 août, les bombardements de part et d'autre n'ont nullement diminué. Les frappes de drones ont même augmenté. Il fallait donc revenir à la table de négociation avec la Russie. Les États-Unis ont développé une triple pression, chacune de nature différente. La première a été construite autour d'une menace que je qualifierais de militaro-diplomatique. Il s'agit de l'agitation qui a été créée autour de la livraison possible de missiles américains de longue portée, haute précision, Tomahawk. Cette arme lancée sur le territoire russe, pas par les Ukrainiens, par la possibilité de sa précision, d'accroître les destructions sur les infrastructures pétrolières russes. Toujours dans le domaine du pétrole, mais du côté des clients de la Russie, Donald Trump, la semaine dernière, avait obtenu l'accord du premier ministre indien pour arrêter ou diminuer les livraisons de pétrole. À travers ces deux stratégies différentes, la pression sur la première source financière de la Russie, le pétrole, franchissait un important palier.
Alors il y a les missiles, le pétrole, deux éléments de forte pression. Or vous nous en avez annoncé trois. Quel est donc le troisième volet ? Est-il aussi dans le domaine pétrolier ?
Je vais vous surprendre, le troisième est encore d'une autre nature. Il est géopolitique et se situe très loin de la Russie, mais il est de grande importance pour le Kremlin. Vous avez entendu parler des interventions militaires américaines sur les bateaux des narcotrafiquants non loin des côtes vénézuéliennes depuis quelques semaines. Ces embarcations sont carrément détruites au lieu d'être arraisonnées. Figurez-vous que Donald Trump vient de signer même un texte l'année dernière autorisant la CIA à mener des opérations terrestres au Venezuela. Le président Nicolas Maduro, qui fait face à une très forte opposition intérieure, réclamant son départ, a fini par déclarer « les États-Unis veulent me renverser ». Or, ce pays est le plus important allié de la Russie dans toute l'Amérique du Sud. Il est également détenteur d'énormes réserves de pétrole. Ainsi, voyez-vous, avec des éléments très différents, militaires, économiques, géopolitiques, Washington a construit une triple pression sur le gouvernement russe. Ce dernier a bien compris, et le lendemain de l'annonce du président Maduro, Vladimir Poutine a décidé d'appeler Donald Trump et s'est entretenu plus de 2 heures avec lui.
Oui, merci infiniment, hein, Gérard, de cette analyse pour les auditrices et auditeurs d'IDFM, car je crois en effet que très très peu de commentateurs ont aussi clairement identifié cette très subtile et triple action américaine, militaire, économique et géopolitique contre la Russie. Alors que tous les regards et commentaires se sont portés sur les missiles, vous nous faites comprendre qu'il y a une démarche globale de la diplomatie américaine. Et alors que savons-nous du résultat de ce long échange entre Trump et Poutine ?
Alors puisque vous évoquiez les missiles, commençons par eux. Il faut bien comprendre que dans ce processus, ils constituaient avant tout une arme de dissuasion diplomatique. Afin de faire revenir la Russie à la table des négociations, les États-Unis ont menacé de mettre à la disposition de l'Ukraine une arme très connue pour son efficacité. À l'inverse, si la Russie reprenait les négociations, les missiles Tomahawk resteraient aux États-Unis. Du côté russe, maintenant, il semblerait que le Kremlin cherche une négociation territoriale en demandant aux Ukrainiens de leur abandonner le tristement célèbre territoire du Donbass qu'ils n'ont pas réussi à conquérir en totalité en 3 ans et demi de guerre. Ils seraient prêts à se retirer de territoires plus au sud contrôlés actuellement par leur armée. Mais cela veut dire aussi qu'ils refusent tout cessez-le-feu sur les bases de la ligne de front actuelle.
Oui, donc un long échange téléphonique qui semblerait offrir l'ouverture tant attendue pour des négociations prochainement à Budapest, comme annoncé lors de l'entretien téléphonique entre ces deux dirigeants américains et russes.
Vous avez raison, Jacqueline. Il convient d'être extrêmement prudent, car la Russie veut, semble-t-il, obtenir un accord territorial conformément à sa demande avant de s'engager dans un processus de cessez-le-feu. Or, l'Ukraine et les principaux pays européens, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Pologne, Danemark et la Finlande, autour des autorités européennes, souhaitent que le cessez-le-feu intervienne sur la base de la ligne de front actuelle, donc avant toute négociation territoriale. Ces dernières intervenant alors après que les armes se soient tues. Cela pourrait remettre en cause le calendrier de la prochaine rencontre, et cela est le cas depuis mercredi dernier, et son report
oui.
est là.
Oui, l'actualité va vite. Et d'autant que la Russie, qui continue de grignoter chaque jour quelques kilomètres carrés, peut avoir l'impression que le temps joue en sa faveur, et donc faire traîner les négociations en longueur pour lui donner le temps d'avancer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En théorie, oui, mais sur l'oblast de Donetsk, il lui reste environ 8000 km² à conquérir. Et cela pourrait donc durer plus d'une année, voire deux, au rythme de progression actuel. Il faut ajouter que la situation économique russe continue de se dégrader, le ministre russe de l'économie ayant déclaré que le pays se dirige vers la récession. Sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes automobiles ont diminué de 45%. La TVA va augmenter et les recettes pétrolières baissent. la situation intérieure russe pourrait inciter le pouvoir politique à poursuivre les négociations, mais sur les bases qu'il souhaite. Alors, la date de reprise des négociations est hélas reculée, comme nous le savons maintenant.
Merci Gérard pour cette fine analyse de cette très complexe et douloureuse situation. Ainsi, chers auditeurs et auditrices, se termine la rubrique « Décryptons le monde » de Gérard Vespierre. Vous pouvez retrouver tous ses écrits et interviews sur son site www.lemondedecrypté.com. L'accès et l'abonnement y sont gratuits. À bientôt Gérard pour d'autres décryptages.
Au revoir à tous.
Merci, à bientôt. On s'arrête quelques minutes en compagnie de Pascal Obispo et son titre Fan, mais restez à l'écoute pour la suite.
J'ai vécu sous des posters, à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts, en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France, en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Qui peut dire je t'aime quand je suis.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci d'être à notre écoute jusqu'à 11h. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Oscar Wettling et Pierre Ginoux, cofondateurs de la filiale Mobility Minib Cycle, experts en mobilité douce et vélo en entreprise. Cécile Collat et Hugo Collat, cofondateurs et gérants de la société Joliderm. Donc Oscar et Pierre, je commence avec vous cet entretien. Donc déjà merci d'être avec nous et puis j'ai pu vous réunir tous les quatre parce que on va en parler un petit peu plus tard. Vous étiez présents à l'événement Osez de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise à Théméricourt. Donc on y reviendra. Oscar et Pierre, vous possédez un magasin à Saint-Gratien. Et je crois que, Oscar, je vous connais un petit peu, je crois que vous êtes passionné dans le domaine que vous gérez.
Tout à fait. Alors, on a effectivement un centre qui va du coup avoir l'avantage de présenter les vélos sur site. Donc, on a un emplacement sur à peu près 1 hectare avec une partie atelier qui est maîtrisée depuis près de 4 ans. Et aujourd'hui, on vient pousser une offre à destination des entreprises, une offre de mobilité, à mettre du coup au service des salariés, en partant du constat que 8 déplacements sur 10 sont inférieurs à 5 km. Cette distance reste idéale donc pour le vélo. Malgré cela, en Ile-de-France, seulement 2% des salariés viennent à vélo aujourd'hui. Et la région prévoit quant à elle 450 km de nouvelles pistes cyclables d'ici 2025. Cela laisse donc la place à mettre en œuvre davantage de services autour du cycle. Et c'est aujourd'hui ce que nous souhaitons faire de façon locale, prioritairement.
Oui, parce que la région francilienne est souvent perçue comme saturée et peu adaptée au vélo. Mais donc, vous faites le pari, justement, que ça va évoluer. Moi, je me souviens avoir reçu beaucoup de candidats aux dernières élections municipales, donc il y a 6 ans. Et dans leur programme, ils avaient tous le fait d'installer des pistes cyclables. Donc, est-ce que vous avez vu quand même une évolution depuis ?
Absolument. Alors, il y a des départements qui sont plus en avance que d'autres. Et il y a des itinéraires qui sont plus propices à l'usage du vélo que d'autres. Après, il reste quand même... on constate quand même un manque d'informations autour du cycle et un paradoxe entre l'image verte que l'on a de l'usage du cycle et parfois les vélos qui sont employés par les salariés ou par les personnes qui souhaitent initier ce mode de déplacement pour aller travailler, qui ont des expériences avec des produits qui sont pas forcément suffisamment qualitatifs. Oui. Ou suffisamment fonctionnels dans la durée. Et donc nous, c'est là-dessus aussi qu'on va essayer d'avoir un message un peu plus fort, donc de proposer des produits qui soient un peu plus durables, un peu plus qualitatifs, pour pouvoir aller au travail plus en sécurité et de façon plus assidue aussi.
Et donc, quels sont les leviers alors pour intégrer davantage le vélo dans les déplacements quotidiens, notamment professionnels?
Alors, sur la partie avantage et donc levier, je vais laisser Pierre nous en dire un petit peu plus sur une approche peut-être un poil plus technique.
Pierre Ginoux.
Merci Oscar. Alors il y a plusieurs leviers. Ces leviers, ils sont en lien avec des aides éventuelles de l'État notamment. Donc l'État pousse, vous l'avez dit, beaucoup d'électeurs souhaitent voir plus de vélos dans leur ville et ça reste un besoin pour certains salariés, pas tous bien évidemment, on reste assez clair là-dessus. Dans les aides, on a des aides de subventions de l'État sous la forme de crédit d'impôt, par exemple, si l'entreprise achète une flotte de vélos pour ses salariés, donc en partage, hein, le vélo est une propriété de l'entreprise, pardon. Elle peut avoir un crédit d'impôt à hauteur de 25% des prix TTC mis en place et récupérer la TVA, bien évidemment, ça reste un amortissement comme n'importe quel
comme autre
achat. Ensuite, si on est un peu plus frileux sur la mise en place et qu'on souhaite plutôt simplement le donner comme un avantage salarié, il y a le fonds de mobilité, le forfait mobilité durable qui a été mis en place et qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui permet d'aller jusqu'à un maximum de 700 euros ou 900 euros si on prend en compte le forfait de déplacement Navigo. en Île-de-France oui, oui. notamment. Oui. Et donc ces 900 euros sont totalement exonérés de charges et c'est une dépense qu'on peut donner aux salariés comme un avantage pour qu'ils puissent s'acheter un vélo, se former aussi, acheter des équipements de sécurité, des lumières et autres anti-vol. Ça, ce sont des choses qui sont mises en place par l'État pour faciliter la démarche. Dans les autres choses, on a beaucoup d'informations qui sont importantes. C'est que il y a plusieurs études qui ont été faites sur les avantages santé aussi de se mettre au vélo. Alors bien sûr, tout pendant que ça reste régulier et que ça reste sur des distances qui sont faciles à faire, entre 5 et 10 kilomètres, aucune bonne raison de faire 35 kilomètres proche d'une départementale sous la pluie en hiver. C'est pas ce qu'on propose, hein, bien sûr. Mais 30 minutes de vélo par jour, on réduit de près de 40%. Les risques de maladies cardiovasculaires, des choses qui sont super intéressantes. On arrive éveillé au travail, on découvre aussi un petit peu sa région, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être coincé dans les bouchons, là on va prendre d'autres chemins, parfois un peu plus avec plus d'arbres, plus de nature autour de nous.
Un peu plus ludique. Hein.
C'est ça, exactement. Et bien sûr, il n'y a aucun engagement qui nous oblige à partir, comme je l'ai dit, vendredi matin, sous la pluie, avec des températures négatives. C'est pas ce qu'on propose non plus, mais c'est chaque trajet qu'on arrivera à enlever qui est fait actuellement avec de la voiture, bah, à chaque fois qu'on le fait, on économise déjà de l'essence et de deux, on pollue moins et on fait du bien à notre santé.
Oui. Merci Pierre. Je m'adresse à Cécile et Hugo. Vous étiez au courant de ces aides de l'État pour acquérir des vélos professionnellement, Cécile? Alors,
jusqu'à la rencontre à la CCI avec l'événement Osé, non, pas du tout. C'est pas une information qu'on a forcément. Mais comme on a eu la chance de pouvoir échanger avec eux,
vous le savez. Et est-ce que vous envisageriez d'avoir un vélo pour vous rendre à votre travail ou c'est hors de question?
Non, je pourrais l'envisager. J'ai déjà essayé. Oui. Mais je pense que je rentre dans la catégorie de celles qui ont acheté le mauvais vélo, lourd, fastidieux, et que j'ai pas été accompagnée. Et c'est vrai que quand on regarde un peu, je pense qu'il y a aussi une notion de sécurité autour.
Oui.
C'est-à-dire que de partir toute seule avec son vélo où il n'y a pas forcément de piste cyclable, on connaît une méconnaissance sur ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, c'est un peu plus complexe. Donc j'ai vite abandonné parce que je pense que le vélo était trop lourd et pas adapté à ma personne. Mais je pense que pour les équipes et pour la plus jeune génération que la mienne, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les mœurs.
Envisagé. Ouais.
Tout à fait.
Hugo, vous?
Oui. Moi, effectivement, j'ai la chance d'aller au travail à pied.
Oui.
Puisque on va en parler certainement après, mais effectivement, chez Joliderm, on a ouvert notre boutique à Versailles. Et je suis de Versailles, donc effectivement, d'accord, j'ai la chance d'aller au travail à pied. Donc, mais c'est vrai que le vélo, la trottinette, les choses comme ça, dans les villes et même les endroits qui sont possibles avec les pistes cyclables, sont des choses qu'il faudrait mettre en avant et un peu plus développer.
Merci.
Moi, c'est vrai que ma génération n'a pas forcément peur de prendre le vélo.
Oui. C'est ça. Voilà. Merci Cécile, merci Hugo. Alors, Pierre et Oscar, en fait, on comprend qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, probablement, auprès des entreprises. Et c'est ce que vous attelez à le faire.
Eh oui, c'est ça. C'est la dure mission qu'on se donne, bien évidemment. Donc, l'avantage, c'est qu'on part pas de rien. Comme je l'ai dit, il y a déjà beaucoup de fondations qui sont posées, mais pas forcément connues. Et Cécile l'a rappelé. Donc voilà, nous, pour répondre aussi à cette logique-là, on va faire de la pédagogie sur le choix du vélo, pour rebondir sur ce que vous avez dit. Et on va essayer d'enlever tous les freins qui peuvent rester. Donc, on a développé une offre en 3 points et cette offre, tout bêtement, si je devais la résumer, c'est on prend notre magasin et on l'amène en bas de vos locaux. Donc on va venir vous faire essayer des vélos avec une dizaine de vélos, tous différents, typiquement des vélos cargo électriques. Donc beaucoup de gens se posent la question si c'est facile à utiliser, ça reste lourd, est-ce que c'est bien pour mon utilisation, des vélos plus sportifs, des vélos électriques classiques, urbains. On les fait essayer avec les casques, les gestes de sécurité et on essaie de vous guider dans le choix du vélo qui est le bon. Ça reste quelque chose qui est personnel et qui est pour un usage à chaque fois différent. Ensuite, on fait la vente, bien évidemment. Donc soit vous êtes convaincu, soit vous revenez chez nous et auquel cas on a nos locaux à Saint-Gratien. Vous serez accueillis par une super équipe avec Oscar, Arthur, Nathan et Loane, et on est en mesure de vous vendre vélo, équipement et de vous les livrer en bas de vos locaux, pareil. Et enfin, la dernière, le dernier frein, et c'est le combat dont Oscar parlait, c'est d'essayer d'éviter le vélo jetable qu'on
c'est
utilise.
Ça.
C'est
de, je voulais venir à ça. C'est en fait, vous, votre, finalement, votre leitmotiv, c'est de lutter contre les vélos à bas coût, hein, non réparables, sans SAV.
Absolument. Pour rebondir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure brièvement, il y a un paradoxe entre l'idée verte qu'on puisse avoir du cycle à assistance électrique qui émet pas de CO2 à proprement parler quand il est utilisé, et le volume de produits qu'on vend en circulation qui sont soit sous-équipés sur le plan mécanique parce que les motorisations et les batteries sont un coût supplémentaire à un vélo traditionnel, musculaire parfois dit-on. Et donc pour saisir, disons, une grosse partie du marché, il y a des constructeurs qui commercialisent des produits qui sont souvent pas suffisamment bien équipés. On va prendre l'exemple, par exemple, d'un frein patin sur un produit qui est plus lourd, sur un produit qui va plus vite, n'est pas forcément une technologie adaptée. On va prioriser, nous, le frein hydraulique. On vend aucun vélo à assistance électrique sans frein hydraulique. C'est la même technologie qu'on va trouver dans nos voitures et dans nos motos, beaucoup moins contraignante sur un vélo parce que il y a moins d'entretien à faire, mais ça freine drôlement mieux et donc c'est plus sécuritaire. Alors ça fait partie du coup de notre combat, le fait de mettre en avant des produits parfois un peu plus chers. On va dire que la première mise démarre à 1 800 € TTC, donc 1 500 € hors taxes, pour avoir un produit avec une motorisation d'un motoriste agréé qui mettent à disposition des outils diagnostiques pour les pannes éventuelles, des pièces de rechange, et donc toutes ces choses auxquelles on est habitué dans l'automobile ou dans la moto, mais qui sont pas forcément un standard dans le cycle aujourd'hui, parce que c'est un marché qui est moins normé. Et donc, de notre expérience de 4 ans maintenant, sur notre centre, sur Saint-Gratien, on a pris... on a les éléments aujourd'hui pour prioriser, mettre en avant et sélectionner vraiment nos fournisseurs pour proposer des bons rapports qualité-prix, mais sur des produits que l'on puisse entretenir, dont on puisse garantir l'usage sur le long terme.
Oui, c'est ça. Le but, vous l'avez dit, bien sûr, le produit est un peu plus cher, mais on le dit souvent, il vaut mieux acheter un peu plus cher et que ça dure plus longtemps que d'acheter à bas prix et puis que ce soit ça soit jeté ou voilà, ça nuit à l'environnement, à la sécurité des usagers. Enfin, il y a plein d'inconvénients, c'est clair.
Absolument.
Et donc vous vous allez faire ces propositions donc dans les entreprises. C'est vous qui démarchez les entreprises, c'est elles qui viennent à vous, comment ça se passe?
Eh bien, il y a des deux. Il y a des entreprises qui ont déjà un appel, donc à projet, qui attendent de se voir offrir quelque chose de fiable. Et il y a des entreprises qui sont déjà en contrat avec des fournisseurs qui ont parfois des lacunes, parfois avec lesquelles ça se passe bien. La lacune principale, enfin disons l'obstacle principal que nous avons rencontré auprès des entreprises qui sont ouvertes à proposer et moteur, proposer une mobilité douce auprès de ses salariés, avec notamment l'usage du cycle, c'est l'état de fonctionnement du cycle. C'est-à-dire que si on propose ce service-là pour un volume d'individus qui habitent à proximité de l'entreprise et qui est volontaire pour utiliser le vélo plutôt que l'automobile ou les transports en commun, par exemple, eh bien, il faut que cette personne puisse s'en servir et n'ait pas de souci, évidemment, de fonctionnement. Donc, pour ça, il faut que le vélo soit suffisamment qualitatif et qu'il y ait un service de dépannage spontané et d'entretien planifié, régulier, avec une qualité opératoire sur site. C'est aujourd'hui ce qu'on voit pas forcément dans les entreprises.
Merci Oscar. Je vous laisse profiter tous les quatre de quelques instants de musique avec Christophe Maé et Belle Demoiselle. Et on va savoir combien coûte le vélo en entreprise. On va voir que c'est très accessible. À tout de suite.
Du fond de ma rue, une silhouette comme un bruit aigu se rapproche à hauteur de mes yeux nus. La silhouette, c'est une fille, jour de fête nationale, ronflante comme une escadrille qui domine mon moral. Je la regarde me sourire, je baisse la garde et les yeux pour me dire: belle demoiselle qui se presse d'en aller, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. nuage s'éloigne sans un bruit, alors c'est grave. Ça se bouscule dans ma tête, topé à l'effet de plaire. C'est pas vraiment la fête, pourtant j'ai l'air de lui plaire. Qu'ai-je fait, oh bon Dieu, pour être fidèle à cet aveu? La belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Inaccessible comme une hirondelle. Je calcule dans ma tête, dopé à l'effet de plaire. C'est quand même la fête, le fantasme qui peut distraire. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfait. Merci mon Dieu, mais je tire un trait sur cet aveu. La belle demoiselle dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer. Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
Belle demoiselle, oh non, qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
J'ose pas m'emballer.
Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole.
Elle s'envole.
La belle demoiselle, qui se presse dans l'allée, sa démarche lui donne des ailes, mais j'ose pas m'emballer.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct et nous poursuivons cette émission consacrée à la mobilité douce et aux cosmétiques en présence de Oscar Wettling et Pierre Ginoux, cofondateurs de la filiale mobilité Minib Cycle, et Cécile Collat et Hugo Collat, cofondateurs et gérants de la société Joliderm. Cécile, pendant la pause, je crois que vous nous avez dit que vous aviez envie de poser une question à Pierre et Oscar.
Tout à fait. En fait, j'ai eu une interrogation quand vous parliez tout à l'heure, c'est que je me posais la question si vous aviez un des freins ou une des actions, du coup, serait pas auprès des collectivités ou des municipalités, parce que il y a le côté envie, besoin de faire du vélo, mais il pourrait y avoir aussi le côté un peu peur, surtout en région parisienne, en Île-de-France, sur la sécurité de la personne physique, c'est-à-dire qu'on se dit avec une voiture on est un peu protégé, les gens conduisent vite, il y a beaucoup de monde. Moi j'ai vu ce genre de pratique que vous proposez par exemple en Bretagne ou en Auvergne, où effectivement il y a quand même moins de risques entre guillemets. Et est-ce que ça c'est un frein pour vous, et est-ce qu'il y a des choses qui, enfin quand vous rencontrez les entreprises, de se dire que le nombre de personnes sur les routes aujourd'hui, sur le non-respect, encore une fois, du code de la route ou du code du cycliste, je ne sais pas, pouvait être un frein.
Alors,
Oscar
Non,
je vous annonce pour qu'on sache qui parle.
Parfait, merci. Alors, merci pour votre question, Cécile. C'est un frein à la sécurité, effectivement. On n'a pas forcément une réponse miracle à tout. Il est évident que la mobilité douce, ça passe par un moyen de transport qui soit moins volumineux qu'une automobile, le but étant de désengorger et de faire déplacer un véhicule moins lourd. En électrique, par exemple, la masse, le poids, importe beaucoup sur l'impact de l'usage d'un produit assisté électriquement. Finalement, la sécurité, il sera compliqué qu'elle soit meilleure en vélo par rapport à en voiture, dans le cadre d'une circulation sur la route. Parce qu'en voiture, on est évidemment protégé d'une masse en général de plus d'une tonne de métal. Donc, c'est sur ce point-là un peu difficile de promettre beaucoup plus de sécurité à vélo, si ce n'est via les infrastructures exclusives cycles qui sont en développement massif, comme je le disais tout à l'heure, 450 km de pistes cyclables verront le jour d'ici donc les prochaines années. C'est qu'une question de temps, des budgets ont déjà été adoptés pour ces infrastructures-là. Il est juste compliqué de les mettre en place dans un univers qui est très saturé aujourd'hui et qu'on a uniquement réfléchi pour l'instant autour de l'automobile. Et c'est un petit peu le, voilà, cette partie-là nous, on va en, ça va nous permettre de lever ce frein-là à terme. Mais pour l'instant, disons que c'est pas nous qui allons construire les infrastructures. Donc on les attend de pied ferme, mais ça va nous aider effectivement à rassurer les personnes qui sont un peu inquiètes sur le plan de la sécurité ou celles qui ont des itinéraires qui sont un peu trop difficiles.
Merci Oscar. Ça a répondu à votre question,
tout à fait.
Cécile. Merci. Alors donc, moi je voulais qu'on aborde le coût, hein, parce que c'est important. On a compris que le vélo en entreprise est une solution accessible. Donc pour toutes les, est-ce que toutes les entreprises, y compris les TPE, peuvent proposer des vélos à leurs salariés? Et qui finance l'achat dans ce cas-là? Le salarié, l'employeur? Et quels sont les coûts réels pour une entreprise de 10 salariés, par exemple?
D'accord.
Beaucoup de questions, Pierre.
Beaucoup de questions d'affilée. Alors, pour la première réponse, est-ce que toutes les entreprises, pardon, peuvent proposer des vélos en entreprise? Oui, bien évidemment. Il y aura des raisons qui seront très probablement différentes, ou en tout cas des moteurs qui seront différents. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir des salariés qui ont le besoin ou un minimum d'intérêt à le faire, parce qu'on ne va pas forcer les gens à faire du vélo s'ils ne peuvent pas en faire, ça c'est certain. Sur la partie TPE, PME, là on va aller chercher un outil de défiscalisation, peut-être pas le meilleur, mais un outil qui est vraiment intéressant et qui est facile à mettre en place, et un avantage salarié. Et aussi une image qui va être un peu plus verte, un peu plus RSE, parfois sur certains besoins. En tant que fournisseur, on est obligé de montrer qu'on a une démarche RSE, même en tant que TPE.
Oui,
donc
sûr.
Du coup, c'est quelque chose, c'était vraiment une première base solide et facile à mettre en place et à en entretenir. Ensuite, sur des entreprises qui sont un petit peu plus grandes, c'est-à-dire au moins 50 salariés ou plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'ici 2027, mauvaise nouvelle, vous serez obligé d'avoir des rapports extra-financiers, c'est-à-dire de prouver, d'un point de vue, vous êtes obligé de monter une politique RSE, en fait, tout simplement. Donc, avoir des rapports qui montrent que vous faites des efforts sur votre consommation carbone, sur la qualité de vie au travail de vos salariés, et voilà, et tout le paysage des normes qui affiche là-dessus. Donc, il y a encore un petit peu de temps, mais ça fait partie des axes stratégiques qu'on peut mettre en place, parce que en général le plus gros scope, surtout en Île-de-France, le plus gros scope de la consommation en CO2 d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle le scope 3, et c'est justement notamment le déplacement domicile-travail des salariés. C'est parfois jusqu'à 30% des émissions de CO2 d'une entreprise. Et c'est 30%, si on fait quelques efforts dessus, ils peuvent vite
descendre. Oui, c'est ça. C'est là où l'empreinte carbone est la plus élevée.
Exactement. En plus d'améliorer la qualité de vie au travail. Et si vous êtes en Île-de-France et vous travaillez avec nous, petit clin d'œil, c'est qu'on est local en plus. Donc, vous faites vivre le tissu local économique. Donc, beaucoup de points, beaucoup de cages cochées sur ce genre de rapports et de normes sur lesquelles vous pouvez prouver que vous faites un effort pour travailler plus simplement. Voilà. Là, on a trois scopes, un PME jusqu'à des grands groupes. Ensuite, la deuxième question, c'était qui paye, c'est ça?
Oui.
Pareil, ça c'est la discrétion de l'entreprise et au choix de la politique qu'elle met en place. Ça peut être simplement le salarié sur sa bonne volonté. Il peut y avoir des coups de pouce de l'entreprise. Là, on parle du forfait mobilité durable. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est une enveloppe qui peut aller jusqu'à 900 euros, qui est exonérée de charges. Donc là, l'entreprise fait un premier effort pour voir si ça prend, si l'on comprend, si on a beaucoup de salariés qui le font. Et c'est sur toute dépense liée au cycle, donc on ne parle pas juste de la charge d'un vélo, on parle de 700 euros tous les ans par salarié qu'on peut mettre dans l'entretien du vélo, dans les équipements
d'accord.
de sécurité.
C'est pas qu'une fois.
Exactement, non, c'est tous les ans. C'est vraiment,
oui, parce que je me disais, donc 900 euros par rapport au prix que vous nous avez annoncé, c'est à peu près 50% du montant du vélo que vous allez proposer. Mais en fait, ça va au-delà, quoi.
Exactement. Et ensuite, si on a une entreprise qui est un peu plus certaine ou qui souhaite avoir le levier de défiscalisation, là, on fait un achat 100% par l'entreprise. Et pareil, on ne parle pas simplement du cycle. L'entreprise peut acheter des formations, peut acheter l'entretien, peut acheter les équipements pour ses salariés. Et tous ces équipements sont défiscalisables, donc c'est-à-dire sont une charge pour l'entreprise, bénéficier de 25% de crédit d'impôt dessus, et on a la récupération de TVA dessus.
Donc une offre bien pensée, comme vous le dites.
On essaye en tout cas.
Oui, vous essayez. Et pour revenir à votre approche raisonnée, vous êtes arrivé à cette synthèse après avoir échangé avec les entreprises, ou elle vous est venue comme ça? Enfin, vous avez vous-même réfléchi et vous avez décidé de la monter de cette façon?
On rebondit plutôt sur le constat qu'a fait Oscar tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement en Île-de-France qui est vraiment très sclérosé par les embouteillages. Donc le vélo est une solution, pas pour tout le monde. Ça, c'était la première étape. La deuxième, c'est que forcément, ayant déjà une emprise physique à Saint-Gratien depuis 4 ans, on voit passer du monde et parfois des pros. Oui. Et forcément, l'idée, elle remonte de là également. On n'est pas à notre coup d'essai. On a déjà vendu à des pros, hein, c'est déjà le cas. Mais là, on essaie de vraiment plus industrialiser la chose et de le faire avec des offres qui sont complémentaires. Donc sur la partie entretien et sur la partie essai directement sur site.
Très bien. Je propose qu'on marque une courte pause et puis on reprend ces échanges passionnants. À tout de suite.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est l'économie en direct. À mon micro, Oscar Weckling et Pierre Ginoux, Cécile Collat et Hugo Collat. Alors Pierre, vous êtes en train de nous expliquer comment la solution du vélo en entreprise est très accessible. Je vous avais demandé de nous donner une idée d'un coût réel pour une entreprise de 10 salariés, par exemple.
Effectivement, alors on va reprendre la question aussi d'avant, c'est-à-dire avec un achat fait par l'employé ou un achat fait par l'entreprise. Dans le cas d'un achat fait par employé, mettons que on est un petit peu frileux sur le début et qu'on propose un forfait mobilité durable à hauteur de 300 euros par salarié par an. Donc ça nous fait 3000 euros d'investissement mis par l'entreprise chaque année pour l'achat du vélo, des équipements et l'entretien éventuel du vélo. À cela peut s'ajouter du côté du salarié. Donc là, c'est le salarié qui achète le vélo, mais qui bénéficie de 300 euros de son entreprise. Donc il y a un achat partagé, on va dire, d'une certaine manière. Mais la propriété est bien celle du salarié. Ce salarié ayant un vélo à sa propriété peut demander... Désolé, une aide de la région. L'aide actuellement sur un vélo électrique sans limite de revenus, c'est 400 euros. Donc on enlève aussi à la note du vélo. Donc sur un vélo à, on l'a dit tout à l'heure, 1800 euros TTC, on enlève 300 d'une première part et ensuite 400 euros, ce qui nous laisse 1100 euros, sachant que l'année d'après, on pourra s'acheter un joli casque et des équipements parce qu'on aura à nouveau 300 euros ou le faire entretenir, ce qu'on conseille bien évidemment pour qu'il marche mieux dans la durée. Deuxième exemple, si c'est l'entreprise qui achète le vélo, on va partir sur la mise en place d'une flotte de vélos partagés, mettons 5 vélos si tous les salariés pensent utiliser de manière régulière, pas obligatoire hein, mais régulière le vélo. On pose 5 vélos avec les antivols et les casques pour un budget d'environ 2500 euros TTC par poste de coût, donc pour les 5 vélos avec les casques, etc. Ce qui nous donne un budget total de 12 500 euros TTC. Donc c'est un investissement, ça on le conçoit bien évidemment, hein, mais cet investissement il est amortissable, tout du moins sur la partie vélo. Et donc sur ces 12 500 euros, on a la récupération de TVA, environ 2 080 euros, les crédits d'impôt sur l'IS, donc 25% de 12 500, ça se fait sur le TTC, donc 3 125 euros. Au final, l'achat il revient pour la société à 7 292 euros amortissables. Et l'impact pour la société, c'est plus de motivation, en général moins d'absentéisme, une image employeur et une démarche RSE qui est vraiment affirmée. Donc là, je rebondis sur ce que je disais sur les fournisseurs, etc. On a vraiment quelque chose qui est ancré et qui est évolutif. Un vélo, ça se revend, ça, on peut l'augmenter, on peut le descendre, voilà.
Merci Pierre, c'était très clair. Hugo et Cécile, ça vous donne envie d'acquérir des vélos, malgré la première question que je vous ai posée tout à l'heure.
Alors peut-être qu'il faudrait que je refasse un essai, parce que le premier n'était pas très concluant pour moi, mais pas dû au vélo, pas dû à votre vélo. Je pense que j'ai fait l'erreur que beaucoup doivent faire d'aller chercher un vélo bas de gamme juste pour tester. Et que du coup, ça m'a un peu démotivée, donc oui, ça peut être, c'est très intéressant.
C'est intéressant. Merci beaucoup. Moi, je suis allée sur votre site, hein, bien sûr, Pierre et Oscar. J'ai vu que vous aviez quand même beaucoup de modèles. Comment vous choisissez tous ces modèles, Oscar ?
Alors, les modèles, on les choisit après les avoir essayés. Mmh. Et ça, déjà, ça fait une différence avec beaucoup de professionnels dans l'univers du cycle qui s'intéressent parfois qu'au prix. Alors, c'est un critère. Mais c'est pas le seul critère. Le critère numéro un, c'est que ce produit-là soit accompagné d'outils de réparation, de pièces de rechange, et donc on soit sur un fournisseur solide. Il s'agit parfois, souvent, de fournisseurs qui ont de l'ancienneté. Le made in France, c'est pas un critère clé parce que c'est pas systématique, enfin c'est pas fréquent du tout en fait dans l'univers du cycle. C'était le cas avant. Il y a longtemps, on faisait des vélos made in France de bonne qualité. Aujourd'hui, la fabrication made in France est beaucoup plus en recul. Où le made in France, c'est beaucoup des produits de grande surface qu'on va retrouver chez Carrefour, par exemple. Donc, c'est pas forcément la qualité qu'on attend. Donc, on va s'intéresser plutôt à la durabilité du cycle, premièrement. Donc voilà, il faut qu'il puisse durer au moins 10 ans. Il faut qu'il ait la capacité d'encaisser correctement les kilomètres et qu'il soit sécuritaire sur la durée. Donc typiquement frein patin pour un vélo électrique ou frein à disque mécanique, donc avec des câbles, tout ça, ça suscite plus d'entretien et ça freine drôlement moins bien les transmissions, donc ce qui achemine la puissance à la roue arrière, donc ce qui permet d'alimenter la roue arrière, eh bien doivent être aussi suffisamment qualitatifs pour éviter les casses de chaîne ou les sauts lorsqu'on passe des vitesses. Donc d'avoir un vélo qui soit pas fiable sur ce plan-là, c'est pas agréable, c'est pas rassurant, ça nous aide pas à monter les côtes, ça nous aide pas à tenir une cadence de façon saine. Et puis le moteur, il doit être situé dans le pédalier et pas dans la roue arrière. Un moteur dans la roue arrière ou dans la roue avant, c'est un moteur qui est souvent beaucoup moins cher, souvent chinois ou coréen, et c'est des motorisations sur lesquelles on n'a pas de procédure de résolution de panne, en fait. On n'a pas d'outils. Ce sont des motorisations qui sont plus souvent sujettes à des problèmes techniques, donc on évite également.
Bon, moi, j'aurais appris quelque chose. Hein, il ne faut pas que le moteur soit dans le pédalier, dans la roue arrière, mais dans le pédalier.
Voilà.
Merci, Oscar. Presque une dernière question, mais qui s'adresse à vous aussi. Aujourd'hui, l'instabilité politique est prégnante. Qu'est-ce que ça induit pour vous dans votre activité ?
C'est jamais rassurant de voir l'instabilité politique actuelle. Forcément, l'un des leviers, mais pas le seul, et on pourrait s'en passer, c'est les aides de l'État pour les entreprises, forcément, ce côté de défiscalisation, là où on a un État qui va plutôt aller chercher à récupérer un petit peu d'argent actuellement. Donc forcément, on n'est pas... c'est pas toujours le meilleur moment, mais il y a jamais vraiment de bon moment pour avancer. Vrai. Donc nous on avance quand même.
Il faut pas se laisser aller quoi. Continuer
mais
toujours.
On tient quand même à l'œil. On reste très informé en tout cas des aides éventuelles de l'ADEME ou de l'État pour voir comment réagir rapidement si jamais il y avait une mauvaise chose. Mais je suis assez serein quand même. Ça devrait bien se passer.
On touche du bois. Cécile et Hugo, l'instabilité politique, vous la vivez comment ? Alors vous, je ne pense pas que vous bénéficiez d'aide de l'État en quoi que ce soit.
Non, pas du tout, mais il y a toujours un comportement du consommateur. Je pense que aujourd'hui, que ça soit par rapport au vélo, on pourrait se dire, est-ce que les aides vont être arrêtées ? Parce que dans la conjoncture actuelle, je ne suis pas sûre que les Français ou l'État... mettre la priorité sur l'environnement, c'est souvent le cas, hein. C'est souvent ceux qui sont un peu lésés, après la culture ou les choses comme ça, mais que le consommateur est beaucoup plus fragile et beaucoup plus conservateur, en se disant comment on va passer encore cette crise, se passer. Donc les choses qu'on va couper, ça va être les fleurs, cosmétique, le vélo, parce qu'on préfère... La nécessité va être sur l'alimentaire ou le vestimentaire.
Oui, c'est ça, oui. Les produits de première nécessité.
Exactement.
C'est sûr. Merci, Cécile. Et puis, alors, une question aussi, je m'adresse aussi à tous les quatre. Vous étiez tous les quatre à Théméricourt. Donc, peut-être un retour sur cette expérience à Théméricourt, Pierre et Oscar.
Absolument, c'était enrichissant de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont des projets souvent... très intéressant. C'est aussi ces événements un moyen de partager effectivement une expérience locale avec ces autres entrepreneurs et de partager des moments avec des personnes qui, comme nous, portent des projets pour lesquels ils se battent. Et donc, c'est enrichissant d'être avec des gens un peu comme nous, de oui. manière un peu plus... plus en masse. Donc ça fait des moments souvent festifs et qui permettent de remotiver aussi, de bien rester motivé dans ces démarches propres. On est ensemble.
C'est
sur
ça.
Le 95.
Vous avez eu des contacts positifs, enfin intéressants, quand depuis vous avez été rappelé par des entreprises depuis votre venue à Théméricourt.
On a pas mal discuté avec certaines. Je pense pas qu'on ait conclu, mais en tout cas, on a des avancées et parfois des avancées plutôt de partenariat plus que de vente directe. Mais oui, ça aide toujours et toujours de bons conseils surtout.
Très bien. Pour vous joindre, en tout cas, ou du moins, oui, nous donner votre adresse à Saint-Gratien, Oscar et Pierre.
Alors oui, on est situé au bout du centre-ville de Saint-Gratien, sur le boulevard Pasteur. Donc le centre s'appelle Minipsycle. C'est ici que sont gardés chaudement nos vélos. Et c'est là aussi, c'est de là que partent les cycles en livraison et que sont entretenus également les vélos qui sont entretenus sur site. Les camions en itinérance qui partent également de cet emplacement vers les entreprises. Donc c'est vraiment notre base pour Minipsycle Mobilité. Donc le 21 du boulevard Pasteur à Saint-Gratien.
Avec un site qui est aussi Minipsycle, site.
Absolument, Minipsycle, donc c'est pour la partie offre, catalogue. La partie mobilité, pour reprendre un petit peu les points qu'on a évoqués sur l'approche technique autour de la santé, autour des avantages financiers, etc. C'est un autre URL, c'est mobilité.minipsycle.com. Donc les deux sont en interaction, donc si on va sur l'un, on peut retomber sur l'autre, et voilà.
Ok, bon, des éléments qui se retrouveront forcément sur le podcast de l'émission. Merci Oscar et Pierre pour ces éclairages concrets. On retiendra que le vélo n'est pas qu'une alternative, mais une solution durable et humaine pour repenser nos projets. Merci à vous de cette... Oui, Oscar, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais vraiment préciser quand même que notre approche du cycle, c'est une approche, on va dire, soft, une approche légère, comme vous l'avez initié au départ. On veut pas que tout le monde, que les personnes pensent que le vélo est indispensable. Il faut que
obligatoire.
C'est pas une obligation, effectivement. Si quelqu'un prend la démarche d'initier un trajet domicile-travail à vélo, ça peut se produire une fois dans la semaine ou trois fois dans le mois. Il y a pas d'objectif. Alors pour qu'on en parle, d'ailleurs, sur les aides, il y a aucune obligation de répondre à un kilométrage ou autre. Nous, on constate que quand les vélos sont mis à disposition des mairies, parce qu'on travaille déjà avec des mairies, sont mis à disposition des entreprises, les vélos prennent du kilométrage, même si l'usage au départ n'est pas parfaitement défini et qu'on est dans une phase de test. Donc nous, on aime cette approche-là. Nous-mêmes, on ne vient pas en vélo tous les jours travailler.
Oui.
Donc c'est un moyen de déplacement qui...
ça doit rester un plaisir.
Exactement.
Absolument.
Donc c'est une solution simple et qui permet d'avoir moins d'émissions, certes, mais qui doit rester facile et ludique. Voilà, ça ne doit pas être une obligation, ça ne doit pas être quelque chose de forcé. Et avec Minipsycle Mobilité, on vient sur place, on équipe, on entretient, ça doit être agréable, l'usage du cycle. Voilà ce qu'on cherche à vraiment mettre en avant.
Et j'encourage mes auditrices et auditeurs à venir vous voir parce que tous les deux, vous êtes charmants et je sais que vous êtes d'excellents conseils.
Merci beaucoup.
Merci Jacqueline.
Merci à vous. Voilà, on marque une nouvelle pause, ne partez pas. On va écouter le duo Julien Doré et leur reprise du titre « Un homme heureux ». À tout de suite.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire
y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment.
Et moi je te connais à peine, mais ce serait d'une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux.
Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles?
Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu.
Ce sont des choses humaines.
Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux.
On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux.
Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux.
Quel que soit le temps que ça prenne,
quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Vous êtes bien à l'écoute d'IDFM Radio avec ça, ce matin à mes côtés dans notre studio, Oscar Wettling et Pierre Ginoux, cofondateurs de la filiale mobilité Minipsycle, et Cécile Collat et Hugo Collat, cofondateurs et gérants de la société Joliderme. Donc merci Cécile et Hugo d'être venus donc de Versailles, si j'ai bien compris.
Tout à fait, merci.
On s'est rencontrés, donc je l'ai dit, sur l'événement de Oser par la CCI, et je vous laisse vous présenter l'un et l'autre un petit peu votre parcours, peut-être Cécile d'abord.
D'accord, merci. Comme vous avez pu l'entendre, on est de la même famille, hein, Cola Cola. J'ai créé la marque Joliderme en 2015, après avoir travaillé dans d'autres entreprises et avoir beaucoup voyagé. Et lors de ces voyages, je me suis aperçue qu'il me manquait toujours quelque chose, toujours un cosmétique. Et de par la nature de ma peau, j'ai besoin d'avoir des choses extrêmement simples. Je fais partie d'une génération de la crème Nivea dans le peau bleue, qui marchait pour tout, pour le visage, vrai. Pour le corps, pour les bobos, etc. Et j'avais envie, suite à la rencontre avec une pharmacienne qui partait à la retraite, d'avoir des produits beaucoup plus naturels, beaucoup plus nomades, et qui puissent m'apporter les bienfaits qui étaient écrits sur le packaging. Voilà.
Mais vous étiez déjà dans ce domaine de la cosmétique?
Pas du tout. J'avais un vrai problème de peau.
Oui.
J'ai jamais pu me maquiller. Je suis allergique à tout. Donc j'avais ce vrai problème. Et comme on était lors de cette rencontre avec cette pharmacienne, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai été voir en Corée du Sud parce qu'ils sont vraiment très doués sur ce domaine-là. J'ai réfléchi, j'ai étudié, j'ai fait des études de marché. Et au début, les premiers produits, quand Hugo m'a rejoint, on n'avait même pas encore les produits, nous avions que les packaging. On a fait un salon, on a regardé comment ça pouvait prendre et ça a été très demandé. Donc,
ça a pris.
J'ai débauché mon fils et je l'ai fait venir travailler avec sur, le, sur la marque. Voilà.
Merci Cécile. Alors Hugo, donc on connaît un petit peu le teasing.
Ah, c'est ça. Donc, pour rebondir un peu sur la création de Jolidaire, moi, un peu plus jeune, fils de Cécile, moi j'étais en école de commerce et elle a eu l'idée pour sa peau à elle de créer des produits qui soient naturels, simples et efficaces. Et j'ai trouvé que c'était une belle histoire, des beaux produits et donc... En fin d'études en école de commerce, en option entrepreneuriat.
Vous apportiez votre expertise.
Je me suis dit, disons que c'est une bonne idée, on va pouvoir peut-être en faire quelque chose. Et avec mon œil un peu plus jeune, un peu plus marketing, un peu plus réseaux sociaux, on a commencé à créer des petites choses, on a présenté, on a eu des très bons retours. Donc c'est de là qu'elle est née l'histoire de Jolidaire. Donc chez Jolidaire, pour résumer un petit peu rapidement, on développe une cosmétique nomade. Qui est pensé pour s'adapter au rythme de vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont rapides, efficaces et simples d'utilisation. Donc on aime bien dire chez Jolidaire que ce soit au bout du monde ou au bout de la rue, prenez 20 minutes pour vous. Donc l'idée c'est qu'on vient pas modifier la routine beauté de la femme ou de l'homme du quotidien, on vient la remplacer le temps d'un week-end, le temps de quelques jours, voilà, avec des produits qui sont rapides, simples, efficaces, comme je le disais, fabriqués en France, à base d'actifs de plantes. L'idée c'est vraiment d'avoir des produits... respectueux de la peau,
c'est
et
ça.
Efficace.
Mm-hmm. Donc, il a fallu relever des défis, hein, c'est-à-dire allier efficacité, naturalité, praticité. Combien de temps vous a-t-il fallu pour... Vous avez une recherche et développement, forcément.
Oui.
Il a fallu combien de temps?
Entre deux ans et trois ans.
Oui.
Parce qu'une fois, comme c'est à base d'actifs naturels de plantes, il a fallu qu'on teste tout. Et une fois qu'on a trouvé le bon produit... On était pionniers dans cet univers-là pour nous, en tout cas. Mmh. On a eu affaire à... Bah, il fallait faire entre le contenant et le contenu, donc faire des tests, etc. Donc il nous a fallu à peu près deux ans et demi, pour pouvoir bien asseoir les produits et la marque. Parce que une des volontés que j'avais vis-à-vis d'Hugo et de son équipe, c'était de faire en sorte que ce ne soient pas des promesses non tenues.
Oui.
Voilà, c'était important pour moi parce que j'avais testé beaucoup de produits avec beaucoup de promesses et ce n'est pas le produit en tant que tel, c'était ma peau qui fonctionnait pas. Donc on a dû se rapprocher de dermatos, de différents labos, etc. Donc voilà.
Donc ça a dû vous demander quand même une certaine mise de fonds parce que cette recherche et développement a dû avoir un coût.
Oui. Ça en a un.
Toujours.
Oui. Alors, l'avantage, c'est que comme nous sommes des produits nomades et que c'est réfléchi exclusivement pour le voyage, on a commencé, on n'a pas été dans le domaine ce qu'on appelle du blanc, c'est-à-dire des crèmes ou des choses comme ça. Donc, on a pris un premier produit, puis après un deuxième. Donc, et le premier a commencé à se vendre, qui a permis de financer le deuxième. Puis, les deux premiers ont financé les cinq suivants.
C'est ça, vous avez créé une base et puis...
Tout à fait. On est resté, je pense, pendant un an et demi avec cinq références.
Tout à fait.
Voilà.
Et vos produits, où les trouve-t-on aujourd'hui?
Alors,
à part dans votre boutique à Versailles, bien sûr.
Majoritairement en ligne.
Oui.
Donc on a un e-shop, jolidaire.com, où vous pouvez retrouver tous nos produits et vous faire livrer directement chez vous. On a à peu près 200 points de vente qui distribuent nos produits en France aujourd'hui.
Oui.
Donc on est en partenariat avec des pharmacies, parapharmacies, notamment le groupement Apothical. On travaille avec des parfumeries, notamment le groupe April sur toute la France. Et d'autres concept stores, instituts, différents points de vente un peu partout en France. Et effectivement, on a ouvert notre première boutique à Versailles au tout début du mois d'octobre. Mmh. Donc là, vous pouvez retrouver nos produits et des nouveautés que nous avons mis en place sur cette boutique.
Donc c'est vous, Hugo, j'imagine, qui assurez toute la partie commerciale, prospection pour retrouver des nouveaux points de vente?
Oui,
alors, depuis
non.
Le 1er octobre, c'est lui qui gère tout.
D'accord. Ah, très bien.
Je lui ai donné, donc là, je suis là pour raconter l'histoire, mais j'ai légué la société à Hugo après 8 ans d'expérience et de mise à l'épreuve.
Après 10 ans. C'est vrai qu'après 10 ans, le cap des 10 ans, on a ouvert notre première boutique et on a fait une passation mère-fils.
Ah, très bien.
Voilà,
ah, oui,
donc je reprends le flambeau de la création familiale.
Bravo. Et donc aujourd'hui, vous êtes combien chez Jolidaire?
Une petite dizaine.
Oui.
Ça va, ça vient en fonction des différents postes, des alternants, des saisons. Parce qu'on a des personnes qui sont au réglementaire et au scientifique pour la formulation des produits. On a des personnes qui sont sur la communication, les réseaux sociaux, le commercial, le suivi des clients, bien entendu. Donc, une petite dizaine.
Alors, je disais que c'était un défi hein, de réunir tous les critères qu'il faut pour avoir un produit qui corresponde à votre peau, finalement, Cécile. C'est aussi une gamme pour toute la famille, j'ai
tout
pu voir.
Tout à fait, c'est-à-dire que c'est une gamme qui est faite... Alors, les hommes et les femmes, les enfants, il y a encore des technicités à partir d'un certain âge, à l'adolescence bien entendu. Et puis je suis pas certaine aujourd'hui que ça soit nécessaire pour l'enfant.
Oui.
La bonne crème Nivea fonctionne très bien.
Oui. On est d'accord.
Voilà. Après, c'est vrai qu'on a développé avec l'ouverture de cette première boutique, ce qu'on pourrait dire par rapport à l'environnement et les choses comme ça. On est revenu aussi sur les méthodes de cette bonne crème Nivea, c'est-à-dire à savoir, entre guillemets, puisque là, les auditeurs et les auditrices ne nous voient pas, mais on va dire de notre génération, Jacqueline et moi, où les choses qui fonctionnaient très bien, c'était la consigne. C'était le recyclable, c'est-à-dire que la bouteille en verre était consignée, ça nous dérangeait pas. Donc avec Hugo, on a eu l'idée, et la directrice de marque Mathilde, on a eu l'idée de développer un concept où vous avez une bouteille consignée et vous venez chercher ce dont vous avez besoin, toujours pour le bout de la rue ou le bout du monde, pendant un certain temps. Donc et ou pour chez vous, puisqu'il y a des shampoings et des gels douches sur des plus grands contenants. Mais sur cette formule-là, où vous pouvez prendre les produits Joliderm finis pour partir directement, et ou mixer avec une bouteille consignée d'autres produits dont vous auriez besoin.
Voilà. Alors, certes, on a retenu hein, le conseil. Si vous aviez un produit à nous faire découvrir absolument chez Joliderm.
Alors pour ma part, ça serait effectivement, je dirais, moi il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est le patch pour les yeux, parce que effectivement, ça, il y en a trois à l'intérieur, donc ça vous permet de faire un aller-retour en avion, en train, et puis d'en avoir un sur place. Il y a le masque hydratant, qui est vraiment bien. Je dirais pour une génération un peu plus jeune, c'est peut-être plus jeune, c'est pas vrai, mais il y a le patch anti-imperfection, est vraiment parfait. Ça change pas que il n'y a pas qu'à l'adolescence qu'on peut avoir de l'acné. Hein. Les changements hormonaux, les choses comme ça sont importants. Mais voilà, ça c'est les trois produits que j'ai tout le temps avec moi.
Que vous avez toujours sur vous. Très bien. Je m'adresse à Oscar et Pierre comme je m'étais adressée à Cécile et Hugo. Est-ce que vous utilisez des produits de beauté tous les deux?
Alors moi je dispose d'une barbe que je suis obligé d'entretenir, donc effectivement j'utilise de l'huile en général et un petit peu de crème. Après je suis plutôt de la team Nivea, un gros pot de crème qui fait un petit peu tout ce qu'il me faut de manière générale. Mais ce gros pot de crème je peux pas l'emmener en avion, j'imagine que vos contenants sont tout le temps en dessous des 100 ml. Donc c'est une très bonne chose et c'est facile d'utilisation. On se pose pas 40 questions sur le vrai usage de la crème pour telle ou telle imperfection. Non, c'est une bonne crème qui fait un peu tout. Et enfin, c'est ce que je comprends en tout cas de votre offre et ça a l'air très intéressant.
Merci Pierre. Oscar.
Alors de mon côté, l'usage du cosmétique est moins fréquent, mais j'apprécie l'idée d'avoir une crème ou plutôt un produit qui soit naturel et qui puisse être polyvalent. C'est vrai que j'ai toujours été assez sceptique de toute la diversité aujourd'hui qu'offre le marché et le fait d'avoir une approche simple sur le soin de la peau. Je trouve ça sain. Donc, j'espère que Joliderm a de belles années encore à venir, mais j'en doute pas.
On a l'impression, on a l'impression. Merci à tous les deux. Allez, encore quelques minutes de pause avec la chanson de Mentissa et Bam.
Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille. Comme une boule au ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup me voilà, les jambes fébriles. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam. Mais bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat. Et bam, et je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
L'économie en direct sur IDFM Radio se poursuit avec toujours à mes côtés Oscar Wittling et Pierre Ginoux et Cécile et Hugo Collat. Alors Cécile et Hugo, on a bien compris que vous aviez réussi à mettre au point des produits qui pouvaient voyager sans problème, quel que soit le climat dans lequel nous nous trouvons. On a parlé d'empreinte carbone avec Pierre et Oscar. Est-ce que cette empreinte carbone est aussi un souci pour vous, Hugo ?
Oui, effectivement, chez Joliderm, c'est une préoccupation majeure dans le sens où aujourd'hui, le marché français de la cosmétique est très axé sur trois points. Le naturel, l'éco-responsable et le bio, le respect de l'environnement. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs français recherchent des produits qui sont majoritairement fabriqués en France. C'est le cas chez Joliderm. On a une transparence au niveau des ingrédients et respectueux de l'environnement, une formulation éthique et c'est vrai que nos produits sont majoritairement fabriqués en France, que ce soit un peu en Bretagne, un peu en Auvergne, un peu dans le sud de la France, et qu'on privilégie les déplacements responsables et aussi l'éco-conception de nos packaging. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour les consommateurs. Il y a une évolution aussi de la réglementation. Et c'est vrai que pour rendre nos produits plus sûrs et plus écologiques, et c'est vraiment une préoccupation majeure chez Joliderm, ça correspond tout à fait à nos valeurs.
Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer, d'une actualité? Vous envisagez des nouveaux produits?
Alors c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, on a ouvert notre première boutique à Versailles au début du mois. Alors c'est vrai que ça change un peu la donne chez Joliderm, c'est-à-dire que Joliderm, historiquement, nos produits sont des produits nomades, donc des patchs et des masques. Pour le visage et pour le corps, parce qu'on a aussi des patchs pour les mains et pour les pieds. Et c'est vrai que dans cette boutique, nous avons lancé deux nouveaux concepts, qui est un concept de vrac cosmétique. Donc, comme Cécile l'expliquait au début, le principe d'une bouteille consignée avec des produits liquides. Donc là, si on n'est plus sur des patchs et des masques, on est sur du gel douche, du shampoing, du nettoyant visage, de la lotion et du sérum. Et l'idée, pareil, on a des contenants un peu plus gros cette fois-ci disponibles, mais c'est vrai que notre cœur de marché reste un produit moins de 100 millilitres. et toute une gamme aussi de bougies parfumées qui sont pareil fabriquées en France, coulées à la main en Provence, avec une cire de soja naturelle, avec des mèches en coton bio, avec des parfums de grâce français. Donc c'est vrai que Joli Derme met l'accent sur le produit français. Et donc l'idée, c'est que c'est notre première boutique à Versailles au début du mois, et l'idée, c'est qu'on en ait d'autres ensuite. On va développer cette offre sur Internet, chez nos revendeurs et sur nos différents e-shops. Et l'idée, c'est qu'on ouvre différents magasins pour avoir des points de vente un peu différents, un peu partout, pour venir recharger sa bouteille. Et donc, la petite news, c'est qu'on est un peu en train de réfléchir sur Enghien-les-Bains.
Ah, très bien.
On a des petites touches, et puis on réfléchit, on regarde, on analyse.
Et donc, ce serait sous forme de franchise ou
nos boutiques internes, parce qu'effectivement, on réfléchit nos boutiques comme un point de recharge avec nos vrais cosmétiques, pour que les gens puissent, peu importe où ils ont acheté leurs bouteilles, puissent venir recharger chez nous leurs produits consignés.
Très bien. Bah, écoutez, bravo pour cette belle évolution, parce que les cosmétiques, c'est un milieu très, très concurrentiel.
Tout à fait.
Donc, vous avez réussi quand même à tirer votre épingle du jeu. C'est bravo. Bravo.
Merci.
Est-ce que vous, pour avoir été un tout petit peu dans ce milieu, je crois que l'export marche très, très bien. Mmh. Est-ce que c'est le cas pour Joli Derme?
Tout à fait. C'est vrai que le produit Made in France et la notoriété de la beauté française est reconnue à l'international. Donc effectivement, c'est des choses qui plaisent, que ce soit en Amérique, en Asie, un peu partout en Europe. C'est vrai que le Made in France est reconnu.
Pardon ? On est implanté au Qatar aujourd'hui.
Ah, très bien.
Oui. Voilà. Alors dans le printemps, parce que le printemps... Oui. L'enseigne Le oui, Printemps ça, est allée au Qatar. Donc on était implanté à l'intérieur. Donc ça nous a permis aussi de faire un test... en physique, parce que Joli Derme fonctionne plutôt très très bien en physique aussi, c'est-à-dire qu'ils ont toute l'ampleur de la gamme et c'est un peu, si on devait faire un parallèle par rapport au vélo, c'est vrai qu'il y a besoin d'un conseil aujourd'hui et que nous, comme on essaie de se réduire à sa plus simple simplicité, ça a besoin d'être accompagné, et donc d'où la notion aussi du magasin physique où on pourrait se poser la question il y a 4-5 ans de se dire est-ce qu'on reste pas que sur les réseaux, est-ce que ça marche bien, c'est plus facile, etc. Mais Hugo en était persuadé, moi moins, mais donc j'ai suivi son intuition de mettre du physique et ça fonctionne plutôt beaucoup mieux.
Très bien. Vous êtes situé où à Versailles?
On est 14 rue Georges Clémenceau, juste en face du Monoprix, du tribunal.
D'accord. Enfin, voilà. Oui, donc,
c'est la rue du tribunal.
Une adresse plutôt commerçante, quoi.
Tout à fait.
Finalement. Pierre Ginoux, je crois que vous voulez poser une question.
Effectivement, mais déjà, c'est une belle réussite que vous montrez. Je comprends que vous pariez beaucoup sur la partie physique et vous avez commencé directement avec la location ou l'achat d'une boutique à Versailles. Est-ce que vous aviez pensé au pop-up store ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour tester une zone?
Alors, on en a déjà effectué, c'est-à-dire que, c'était au moment du Covid, on avait créé un concept de pop-up store ou de shop in the shop. Avec une malle de voyage sur laquelle on est venu, on est allé au Bon Marché, au Marais, on a fait au Printemps, au chez Merci, on avait testé ça, et c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement, quand vous aviez toute la gamme et que vous n'étiez pas un masque parmi tant d'autres, ou il n'y avait pas des choses comme ça, ça fonctionnait beaucoup mieux.
Okay. On peut avoir une idée de coût de vos produits, Cécile et Hugo?
On est nos produits se situent entre 10 et 20 euros nos produits unitaires.
Oui, donc un coût très abordable.
Oui, et puis
ça vous oblige à en vendre beaucoup.
Tout à fait, tout à fait. Et puis l'idée, c'est vraiment qu'on ait le juste prix par rapport aux produits qu'on vend. Aujourd'hui, on est sur des produits qui sont réfléchis, qui sont travaillés, qui sont naturels. Et donc, quand je parle du naturel, des produits.
Des actifs de plantes.
Voilà, on est assez loin du concombre et du citron. On est vraiment sur des choses qui sont plus poussées, du moringa oleifera, du marronnier d'Inde. Enfin voilà, des plantes qui sont vraiment cherchées pour leur efficacité, leur bienfait sur la peau. Donc on se veut le juste prix. On se veut pas trop cher non plus, mais on veut pas non plus décrédibiliser la marque les techniques
et
utilisées.
Et continuer à être au top. Et donc, je reviens un petit peu en arrière par rapport à votre recherche et développement. Donc, vous avez d'abord choisi des produits, parce que puisque vous n'étiez pas du tout dans ce domaine de la cosmétique, vous avez dit, voilà, je voudrais ça et ça.
Non,
ça s'est passé.
Des fois, il y a des belles rencontres. Je pense que tout à l'heure, on va parler de l'événement qui s'est passé avec Osée. Mais c'est la rencontre avec cette pharmacienne qui partait à la retraite et qui a pris de l'affection pour mon cas parce que j'étais en crise. Enfin, j'avais une crise d'eczéma et qui a recherché des produits.
C'est ça, elle était capable de faire des solutions, en fait.
Oui, voilà. Elle avait vraiment une officine avec un petit labo et elle a essayé des choses. On a essayé ensemble. Alors, quand on dit qu'on est du Made in France, bien sûr, quand on produit majoritairement en France, bien entendu. Après, on souhaite pas rester sur cette contrainte si un actif peut être probant, etc. On a envoyé l'année dernière des personnes de chez nous au Japon parce que il y a de l'huile de camélia qui peut être très bénéfique. On a vu avec par exemple l'Afrique du Nord sur c'était on avait été faire figue de Barbarie.
Oui.
Voilà, des choses comme ça. Donc on s'ouvre toutes les portes pour essayer d'apporter la plus simplicité possible.
Oui, l'important, c'est de trouver le produit adéquat.
Exactement. L'ingrédient adéquat qu'on fera de toute façon.
Dans un rapport qualité-prix.
Voilà. Mais nos labos et nos usines sont en France.
Un mot justement sur Témérico. Vous dites qu'il y a des belles rencontres.
Oui, des très belles rencontres. Bah, le vélo, ça c'est une chose. Et je vous remercie de nous avoir invités ensemble parce que c'était un très bel échange qu'on avait déjà eu. Je pense qu'il n'y a pas de... Encore une fois, grâce à ces rencontres, on est en train de pousser pour regarder pour un magasin à Enghien. Donc ça a permis ça aussi. Je pense que vous avez la chance d'avoir une CCI qui est... extrêmement performante et dynamique.
Un président exceptionnel.
On n'en parle plus. nous qui venions des Yvelines, c'était la première fois que grâce à Pierre Cuchely, on a pu intégrer cet événement qui apporte des perspectives pour la région qui sont extraordinaires. Alors, Enghien-les-Bains est une ville extraordinaire aussi.
Une belle ville, oui.
Donc, en un château, vous avez le lac. Voilà, c'est très complémentaire.
C'est ça.
Donc, et c'était vraiment très accueillant, un très bon accueil, une très belle ouverture. On a trouvé peut-être un ou deux partenariats avec des parfums, avec les rendez-vous, les tables rondes.
Au lieu de mettre Paris, Londres, New York, on mettra Versailles, Enghien.
Exactement.
Voilà. Avec le même impact. Merci infiniment à tous les deux, Cécile et Hugo, pour cette plongée dans l'univers Joliderme. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre?
Non, comme ça, on reviendra.
Oui, absolument. Bah, surtout si vous vous installez à Enghien, vous pourrez revenir facilement. En tout cas, vos produits rappellent que prendre soin de soi peut être simple, naturel et s'adapter à tous nos mouvements. Une belle invitation à voyager léger dans tous les sens du terme. Merci à vous.
Merci.
Voilà, l'émission se termine et on a une tradition à l'économie en direct. Si je redonne la parole quand même quelques minutes à mes invités pour un mot de conclusion. Donc, je commence avec vous, Pierre et Oscar, avant de nous quitter. Oscar.
L'approche tout à l'heure que j'ai cherché à avoir sur la simplicité et l'accès au cycle, c'est vraiment notre leitmotiv, donc le fait de pas... associer le vélo à quelque chose de contraignant, ne pas se contraindre, avoir une approche assez flex de l'usage du cycle et qui peut différer d'un individu à un autre, d'une zone à une autre. Donc le but c'est d'être adaptable, le but c'est d'être sollicité et de pouvoir avant tout discuter et de faire preuve de conseil. Voilà pour ce que j'ai à dire aujourd'hui sur notre filiale mobilité, donc de mini-cycle.
Merci Oscar Bettling. Virginie.
Moi je ferais plutôt un résumé de l'expérience que je viens de passer tous ensemble. Je pense qu'on se ressemble beaucoup avec Cécile et Hugo sur la simplicité des produits qu'on souhaite donner, nos services, la durabilité. Voilà, je pense que le consommateur, comme pour vous et pour nous, il a besoin de quelque chose de simple, de facile à utiliser, d'être conseillé sur les choses à prendre et a quand même une petite sensibilité sur l'écologie de manière générale. Donc je trouve que ce bel échange fait sens et c'était un plaisir d'être là aujourd'hui.
Ben merci à vous, merci, c'était réciproque, enfin c'est réciproque. Cécile et Hugo, un mot de conclusion, Hugo.
Alors moi, pour conclure, je vous remercierai de nous avoir invités aujourd'hui. Effectivement, pour moi, c'est une première. Donc, je vous remercie. On remercie aussi les partenaires de la CCI qui nous ont permis de vous rencontrer et de pouvoir être là aujourd'hui. Et un petit dernier mot sur Joliderme. Effectivement, comme le disait Pierre, nous, le consommateur est au centre de nos préoccupations. Donc, l'idée, c'est de faire des produits qui soient bénéfiques pour lui, qui lui correspondent, qui correspondent à ses attentes et à ses valeurs. Donc le Made in France, le naturel, l'éco-responsabilité, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et on fait ça pour eux. Donc on remercie tous nos clients et toutes nos personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux
et moi,
de nous faire confiance.
Ben, félicitations à tous les quatre et que ce soit en pédalant vers son bureau ou en glissant un masque Joliderme dans sa valise, vos univers nous prouvent qu'on peut rendre le quotidien plus fluide, plus durable et plus durable et plus humain. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci. Merci Jacqueline.
Merci à nos auditrices et auditeurs pour leur attention. Merci Francky pour la technique. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur idfm98.fr. Et moi, je vous retrouve vendredi dès 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Restez connectés sur IDFM Radio, les émissions se suivent et ne se ressemblent pas. Belle journée et à vendredi.
Bien sur IDFM Radio.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
IDFM Radio vous invite à sa Halloween Party, vendredi 31 octobre, de 18h30 à 23h. Rendez-vous à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains, avec vos plus beaux déguisements pour une soirée dansante endiablée. Sur scène, les artistes Clara Viola et le groupe Slow Rock. Distribution de bonbons, DJ, tombola, diseuse de bonne aventure, les contes qui font peur et bien d'autres surprises. 7€ l'entrée sur place et 5€ via Hello Asso. Gratuit pour les mineurs, accompagné d'un adulte. Halloween Party, vendredi 31 octobre, à partir de 18h30 avec IDFM Radio à la salle des fêtes d'Enghien-les-Bains.
Happy Halloween avec IDFM Radio.
La ville d'Enghien-les-Bains mène une étude en santé sur l'arthrose du genou et recherche des volontaires pour y participer. Les personnes seront suivies par un rhumatologue et bénéficieront d'une cure thermale gratuite au terme d'Enghien. Cette étude est destinée à un public de 50 à 80 ans souffrant d'arthrose du genou. Pour y participer, il faut répondre à un questionnaire de présélection en ligne ou téléphoner pour savoir si vous répondez aux critères de participation. Lors de cette cure thermale, vous recevrez plusieurs soins quotidiens pendant 3 semaines consécutives. Les 4 soins quotidiens sont supervisés par un médecin thermal et comprennent bain bouillonnant, cataplasme, douche au jet et massage sous eau. Venez participer à la recherche médicale. La cure thermale est offerte et une indemnisation est prévue pour les frais de transport et les 3 visites dans le cadre de l'étude. Contactez-nous au 03 80 68 05 05 ou études-enghien-les-bains.fr.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Vous avez des questions d'ordre juridique ? Les avocats du barreau du Val d'Oise y répondent dans l'émission Tous les droits, le premier lundi de chaque mois, de 9h30 à 11h sur IDFM Radio. Envoyez votre question à l'adresse tldidfm@gmail.com et nous y répondrons à l'antenne.